Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Frédéric. Je suis dans les studios de RVM et je suis en insert téléphonique avec Monsieur François Véter. Bonjour, Monsieur Véter.
Bonjour, Frédéric. Bonjour RVM, bonjour les auditeurs de RVM.
Vous êtes correspondant Prix Artem. Pouvez-vous vous présenter, M. Véter, et présenter votre association, s'il vous plaît?
Je suis le conjoint d'une personne électro-hypersensible. Et c'est ce qui m'a amené à m'interroger sur cette problématique. Parce que, en tant que vivant à côté, c'est pas évident. Et c'est comme ça qu'on est rentrés tous les deux, donc mon épouse et moi, dans l'association Prix Artem, dont on est devenu correspondant. Alors, Prix Artem, ça veut dire pour rassembler, informer, agir contre les risques des technologies électromagnétiques. Donc, Prix Artem agit à deux niveaux. Au niveau de la prévention, parce que la pollution électromagnétique engendre des conséquences physiologiques, et au niveau de l'aide aux personnes électro-hypersensibles, c'est-à-dire celles qui sont déjà atteintes. Voilà, en tout résumé, parce qu'après, il y aurait des heures à parler rien que de ça.
Et comment on détecte donc ces problèmes d'électro-hypersensibilité alors ? Comment ça se développe ?
Il y a deux questions dans votre question. Donc, détecte, puis comment ça se développe ? Je vais déjà répondre à la première. On le détecte, souvent les personnes se rendent compte que quand elles sont en présence de champs électromagnétiques, elles ne vont pas bien. Souvent, alors 9 fois sur 10, ce sont les personnes qui le disent elles-mêmes, qui s'auto-diagnostiquent parce que, hélas, les médecins ne sont pas formés, ne savent pas reconnaître les signes d'électro-hypersensibilité. Et ces signes d'électro-hypersensibilité varient d'une personne à l'autre, mais il y a des constantes. Parmi ces constantes, il y a le fait de ne pas être bien quand on est en présence de sources électromagnétiques. Alors, ça peut être le courant électrique, le champ électrique du courant, le champ magnétique du courant. Ça peut être plus souvent, ou parfois, ça dépend des personnes, les courants haute fréquence, donc téléphonie mobile, Bluetooth, Wi-Fi, enfin, toutes ces choses-là. Et comment ça se développe? Alors, pareil, ça dépend des gens. Il y a des gens chez qui ça apparaît brutalement, pas du jour au lendemain, mais pas loin. Et chez d'autres, c'est progressif, ça s'installe progressivement. On est tous potentiellement des personnes électro-hypersensibles, tout simplement parce qu'on est tous électro-sensibles. La grosse différence, notre organisme fonctionne de façon bioélectronique, enfin bioélectrique. Tous nos échanges, le système nerveux central, c'est de la bioélectricité. Mais même un certain nombre de mécanismes physiologiques reposent aussi sur de la bioélectricité. Donc si nos échanges électriques internes sont perturbés par des champs extérieurs, il faut s'attendre à ce que c'est des conséquences. Et l'organisme répare ses agressions jusqu'à un certain stade. Et passé ce stade, qui varie selon les personnes, d'un coup ou progressivement s'installe l'hypersensibilité, c'est-à-dire que l'organisme n'arrive plus à réparer, et c'est là que surviennent des effets pathologiques qui peuvent parfois être très graves ou parfois être plus légers. Alors après, je suis pas médecin, mais donc je peux pas vous décrire les mécanismes physiologiques, mais Charlotte, qui a déjà passé à l'antenne il n'y a pas très longtemps, a très bien raconté tout ça, et voilà.
Voilà, on va expliquer. Donc Charlotte, c'est une dame qui habite de notre région, hein, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance avec votre association, grâce à Charlotte. J'ai noté que vous êtes la première ONG créée sur la problématique ondes santé-environnement. Donc Prix Artem se bat depuis 2000, hein, donc ça fait quand même un moment que vous parlez de ces problèmes.
Oui, tout à fait. Alors moi, en 2000, je n'étais pas là. Hein. J'ai rejoint le mouvement, j'ai rejoint l'association il y a après 5 ans, mais effectivement, il y avait une personne qui a fondé l'association, un groupe de personnes qui ont fondé l'association en 2000, autour d'une question d'implantation d'antennes relais qui les inquiétait. Et à partir de là, ils ont commencé à se documenter, et puis à réaliser que tout cela n'était pas anodin, Et petit à petit, bah, toutes les personnes qui commençaient à avoir des problèmes avec les ondes ont rejoint PriAirTem. Bon, après, il y a d'autres associations qui ont suivi. C'est comme dans tout le... comme dans le mouvement associatif en général, avec des nuances, des différences de perception, parfois des querelles de personnes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces associations-là, donc il y en a un certain nombre, ont globalement la même approche, c'est-à-dire attention à ne pas s'exposer inutilement et prenons en compte les personnes qui souffrent des ondes.
PriAirTem a obtenu fin 2017 deux agréments nationaux, celui de la santé et celui de l'environnement.
Nous sommes reconnus par l'État comme une organisation non gouvernementale qui est invitée à participer à des travaux, à des échanges, notamment au comité de dialogue de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences radio, où se discutent les normes, où se discute l'application des règles, où se discutent les problèmes qui peuvent être liés par rapport à certaines installations. Bien entendu, nous n'avons qu'un avis consultatif, hélas. Et l'autre agence, c'est l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Alors, donc, l'ANSES s'occupe de sécurité sanitaire, alimentation, bon, ça ne nous concerne pas directement dans la question-là, environnement et travail. C'est surtout l'environnement qui nous concerne. Donc l'ANSES a plusieurs comités de dialogue, dont un est consacré aux radiofréquences et santé. C'est à celui-là qu'on participe. Et dans ce cadre-là, on a des contacts avec des responsables de l'ANSES, on a des contacts avec des chercheurs qui font des travaux de recherche sur les documents, sur les dossiers, sur les sujets qui ont été retenus par l'ANSES. Mais par contre, ça ne veut pas dire que quelque part, parce qu'on a reconnu nationalement, qu'on est dépendant d'aucun pouvoir. PriAirTem est une association indépendante et qui dit ce qu'elle pense. Donc nous siégeons au comité de dialogue de l'ANFR, nous siégeons au comité de dialogue de l'ANSES, mais en toute indépendance et en toute liberté de parole.
Vous écoutez un interview de François Véter par insert téléphonique qui est correspondant de l'association PriAirTem pour rassembler, informer et agir sur les risques liés aux technologies électromagnétiques. Donc vous vivez avec une personne qui a ces problèmes. On appelle ça l'électro-hypersensibilité, c'est ça, hein ?
Oui, alors, faut bien distinguer électrosensibilité et électro-hypersensibilité.
D'accord, c'est deux choses différentes, d'accord.
Ce sont deux choses qui ne sont pas au même niveau. Comme je l'ai dit au départ, tout le monde est électrosensible puisque notre organisme fonctionne de l'électricité.
D'accord.
Mais l'hypersensibilité, c'est quand il commence à y avoir des dysfonctionnements liés au champ électromagnétique.
Votre femme est hypersensible, c'est ça, hein ?
Voilà, c'est ça.
Comment ça se passe pour vous ? Alors, quel est votre regard sur cette situation ?
Oui. Charlotte a bien raconté ce qu'on vit à la première personne. Quand on est électro-hypersensible, comment qu'elle raconte, comment ça se passe pour elle. Moi, je vis ça à la troisième personne. Et je crois que c'est important aussi pour vos auditeurs de réaliser comment ça se passe pour une personne qui vit à côté d'un électro-hypersensible. Tout d'abord, c'est quelque chose qui est frustrant parce qu'on voit sa femme, dans mon cas, ça peut être son compagnon, hein, souffrir et qu'on n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit pour la soulager. Il lui arrive parfois d'avoir des crises de migraine, enfin de céphalée aiguë qui durent 24 heures, parfois jusqu'à 36 heures. C'est horrible quand on voit la personne à côté qui est dans un état totalement... parfois de décomposition physiologique, elle est allongée, elle n'en peut plus, elle a mal. Les antidouleurs ne font pas effet, parce qu'à passer un certain stade, ça ne fait plus effet, et il n'y a aucune solution. C'est très très difficile à vivre. Donc ça c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est au niveau vie sociale. Il faut bien comprendre qu'actuellement, dans la société, il n'y a plus un endroit non exposé. Tout le monde. Alors, surtout quand on va dans les endroits où il y a du monde, que ce soit un théâtre, que ce soit un musée, que ce soit un magasin, tout partout, il y a des gens qui se promènent avec des smartphones. Et même s'ils ne téléphonent pas, on sait que les smartphones continuent à émettre très régulièrement des signaux. Et ces signaux sont ressentis par mon épouse. Donc, ça veut dire que on se coupe quasiment de toute vie sociale. On aimait bien aller au théâtre, on aimait bien aller au spectacle, c'est fini, tout ça c'est fini parce que la dernière fois qu'on a été, c'était il y a 3 ans, il a fallu qu'elle se sauve en plein milieu du spectacle, tellement elle était mal. Elle aurait été incapable de rentrer toute seule en voiture, il faut la conduire. Donc non seulement il y a une rupture du lien social, mais en plus, il y a une incapacité même à se déplacer. Les transports en commun sont remplis de personnes qui téléphonent. Il suffit de prendre le train, de prendre le métro, on se rend compte. Donc, quand on a un appareil, moi j'ai un appareil de mesure, il y a des niveaux de champ dans les véhicules qui sont tels qu'un électro-hypersensible ne peut pas le supporter, du moins quand ils sont arrivés à un certain stade d'atteinte. Eh bien, même en voiture, ça devient très difficile, parce que tout au long de la route, il y a maintenant des antennes relais. Les véhicules sont suréquipés de matériel communicant, et ça fait que chaque fois qu'on croise une voiture qui est équipée d'émetteurs, c'est une agression physiologique pour les électro-hypersensibles. Et les véhicules actuels sont faits de telle manière qu'il y a de plus en plus d'émetteurs qu'on ne connaît même pas. Et on peut arriver à rentrer dans un véhicule et puis ne pas être capable de le supporter. Donc il y a un vrai problème. Et alors ce problème, c'est pour les personnes elles-mêmes, mais forcément, ça rejaillit sur le compagnon. Parce que ce qu'elle ne peut plus faire, à moins que je vive ma vie à côté, qu'on ne soit plus ensemble, moi je ne peux plus le faire non plus. Il y a régulièrement des coups, on connaît un certain nombre de couples qui ont éclaté parce que le compagnon ou la compagne ne supportait plus l'électro-hypersensibilité, enfin les conséquences de l'électro-hypersensibilité du compagnon, quoi.
Oui, c'est quand même très difficile à gérer comme situation, oui.
Et c'est d'autant plus difficile à gérer qu'il y a une aggravation permanente de la pollution électromagnétique. Et ça n'est pas entendu par les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont dans le déni. Ils restent sur l'idée que seules les valeurs extrêmes qui ont été fixées par l'ICNIRP, alors ne me demandez pas de décliner parce que c'est un sigle assez épouvantable, mais c'est une institution privée en lien direct avec les industriels qui a établi des règles, des lignes directives. Et ce sont ces lignes directives qui servent de référence pour les pouvoirs publics et qui servent de référence donc aux normes françaises. Et bien ces normes sont tellement élevées qu'elles protègent contre les risques de brûlure, les risques d'échauffement des tissus, mais pas du tout contre les effets physiologiques qui se passent au niveau de la bioélectricité dont j'ai parlé tout à l'heure. L'ANSES, dont j'ai parlé tout à l'heure, reconnaît l'existence de personnes électro-hypersensibles, mais tant qu'ils n'ont pas réussi à établir de façon formelle le lien de cause à effet, ils ne vont pas proposer à l'État de modifier les réglementations.
Fin de la première partie de notre interview avec François Véter, correspondant de l'association Priartem, pour rassembler, informer et agir sur les risques liés aux technologies électromagnétiques. Cette interview était réalisée en insert téléphonique. À suivre la deuxième partie sur les ondes de RVM 93.7. Au revoir.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.